de Jakarta, voici la voix de l'Indonésie. La diffusion en français présente les nouvelles, les informations et les divertissements de l'Indonésie. Vous pouvez écouter notre émission tous les jours à la fréquence d'ondes courtes 3325 kHz et sur le site web www.voinews.id.
Bonsoir, chers auditeurs. Comment allez-vous? Je suis très heureux de vous rencontrer dans l'émission quotidienne en français diffusée depuis Jakarta. Aujourd'hui, le 19 septembre 2019, je vais vous présenter un certain nombre de programmes tels que le journal, le commentaire et d'autres envois, à savoir l'histoire d'aujourd'hui, mon Indonésie, le magazine culturel, l'Indonésie en couleur et des chansons indonésiennes. Bon, chers auditeurs, nous commençons par le journal. Soyez toujours avec nous à Voice of Indonesia.
RRI World Service, la voix de l'Indonésie avec le journal.
Chers auditeurs, bonsoir. Bienvenue dans le programme Le Journal. Nous commençons avec les titres. La Minuscule encourage les entreprises d'État à construire des infrastructures à Madagascar. Le Forum des affaires Indonésie-Serbie est parvenu à un accord. Les chambres de commerce et d'industrie de l'Indonésie et de la Bulgarie ont signé un mémorandum d'accord pour augmenter le commerce. Le ministère de l'Industrie commence à se concentrer sur le développement des PME des cosmétiques. Le Canada explore la coopération avec Jember. Les Damami de Banyuwangi exportés vers Taïwan. Voici le journal complet. La ministre des entreprises d'État, Rini M. Sumarno, s'est engagée à encourager les entreprises d'État à aider Madagascar à développer ses infrastructures. C'est ce qu'a déclaré la ministre Rini lors d'une réunion avec le président de Madagascar, André Rajoelina, à Antananarivo, au Madagascar, mardi. La visite de travail était une directive directe du président Joko Widodo visant à aider le développement des infrastructures dans les pays africains, y compris au Madagascar. Il a souligné que le Madagascar n'avait pas besoin de citer à collaborer avec l'Indonésie, parce qu'outre l'Indonésie est prête à apporter son aide et possède déjà à la fois l'expérience et l'expertise dont Madagascar a besoin pour développer son pays. L'Indonésie n'exige rien sauf que des conditions de coopération ouvertes et équitables pour un bénéfice mutuel. En effet, des résultats concrets peuvent être immédiatement réalisés. La Chambre de commerce et d'industrie indonésienne et celle de la Serbie ont convenu de renouveler le mémorandum d'accord visant à améliorer la communication et la coopération des hommes d'affaires des deux pays. Cet accord a été signé lors du Forum des affaires Indo-Serbe tenu à Belgrade en Serbie ce jour le 19 septembre. Amelia Tampubolon, responsable de la fonction économique de l'ambassade de la République d'Indonésie en Serbie, a déclaré à Antara mercredi qu'en plus de l'accord, le Forum des affaires a également programmé business matching pour explorer des accords commerciaux entre des hommes d'affaires des deux pays. La délégation de la Chambre de commerce et d'industrie indonésienne, présidée par le président du comité bilatéral, Alexander Yahya Datu, a emmené 8 entrepreneurs s'occupant dans les domaines de l'investissement, de l'énergie, de l'alimentation, des meubles, de la construction, de l'agriculture et des services. Le président de la Chambre de commerce et d'industrie de Serbie, Marko Skades, est très enthousiaste d'accueillir la délégation de la Chambre de commerce et d'industrie indonésienne en faisant participer des entrepreneurs de secteurs similaires à cette réunion. La Chambre de commerce et d'industrie ou Kadin l'Indonésie a signé un mémorandum d'accord avec la Chambre de commerce et d'industrie de la Bulgarie, BWCI, pour augmenter les résultats commerciaux en ouvrant l'accès au marché des pays d'Europe orientale et des Balkans. C'est ce qu'a déclaré Alexandre Yahya Datu, président du comité bilatéral de Kadin pour les pays d'Europe orientale, dans un communiqué de presse à Jakarta mardi. Il espère qu'avec ses efforts, Kadin pourrait devenir un précédent en matière de libre accès pour les entrepreneurs des deux pays et aussi être prête à faciliter l'existence d'activités commerciales dans un futur proche. Le mémorandum d'accord a été signé par le président du comité permanent de Kadin l'Indonésie, Tony Wenas, et le président de BWCI, Stéphane Simeonov, en marge du Forum des entreprises Indonésie-Bulgarie, qui s'est tenu à Sofia récemment. La ministre indonésienne des Affaires étrangères, Retno Marsudi, et le ministre bulgare de l'économie, Emil Karanikolov, ont assisté à la signature de cet accord. Le ministère de l'Industrie a commencé à se concentrer sur le développement des petites et moyennes entreprises, ou PME, qui s'occupent du secteur des cosmétiques comme tenu de la demande croissante du marché intérieur. C'est ce qu'a affirmé le directeur de PME de la chimie, de vêtements, de l'artisanat et des diverses industries du ministère de l'Industrie, Eratna Utarianingrum, à Jakarta, mardi. Ratna a affirmé que le ministère de l'Industrie avait déployé de nombreux efforts pour développer des PME nationales de cosmétiques en fournissant une assistance conformément aux lignes directrices sur comment bien faire les cosmétiques. En outre, le ministère de l'Industrie aide les PME du secteur des cosmétiques à obtenir une autorisation de distribuer sur le marché pour les produits qu'elles fabriquent. En outre, le ministère de l'Industrie a également organisé un concours destiné aux PME dans le secteur des cosmétiques. Ratna a ajouté que cette année, le ministère de l'Industrie développerait également des PME pour les cosmétiques basés sur la culture, dans lesquels les produits utilisent des matières premières disponibles sur le marché intérieur. À l'heure actuelle, le ministère de l'Industrie dispose de 4 groupes de PME des cosmétiques à Lombok qui sont prêts à être développés. Le gouvernement du Canada explore la coopération avec Jember à travers la visite du chef des affaires politiques et des citoyens de l'ambassade du Canada en Indonésie, Geoffrey Dean, à la résidence Jember, Java Oriental, mardi. C'est ce qu'a déclaré Geoffrey Dean à Jember. La réunion de la résidence de Jember, Faïda, accompagnée par un certain nombre de responsables du gouvernement régional de Jember, avec la partie de l'ambassade du Canada en Indonésie, a discuté de divers programmes pouvant être collaborés entre le gouvernement de la résidence de Jember et le Canada. Geoffrey Dean a déclaré que la réunion avec la résidente Faïda avait discuté beaucoup de projets d'avenir qui avaient été faits car il existait un potentiel de collaboration entre Jember et le Canada. Pendant ce temps, Faïda a déclaré que de nombreuses choses pouvaient être communiquées au gouvernement du Canada. Par l'intermédiaire de l'ambassade du Canada en Indonésie, notamment, Jember espère que le gouvernement canadien aiderait les investissements à Jember. Le ministère de l'Agriculture, par le biais de la quarantaine agricole de Surabaya, facilite les exportations des damame de Banyuwangi, propriété de PT Lumbung Pangan International, vers Taïwan. Mushafak Fauzi, responsable de la quarantaine agricole de Surabaya, a déclaré que les damame exportées vers Taïwan pesaient 10,7 tonnes avec une valeur économique de 362 millions rupiah. Mushafak a annoncé mardi dans un communiqué de presse que cette année, PT Lumbung Pangan International avait exporté les damame de Banyuwangi à deux reprises vers Taïwan. Mushafak a ajouté que selon les données de la quarantaine, au cours des années précédentes, les damame n'avaient jamais été exportées. Cela est conforme à la stratégie du ministère de l'Agriculture visant à accroître les exportations par l'ajout de nouveaux types de produits et de nouveaux pays de destination des exportations. Si tous les documents sont remplis et que le damame est déclaré en bonne santé, un certificat phytosanitaire peut être délivré. Le damame est un légume très populaire non seulement en Indonésie mais aussi à l'étranger. C'était le journal de la Voix de l'Indonésie à Jakarta.
Semboyan kami angkasawan RRI, sekali di udara tetap di udara, semenjak 45 tak pernah berhenti.
Pancasila. Kita setia pada sekerjanya, Ampera tujuan utama. Penuh pengabdian pada revolusi, demi Tuhan, demi Pertiwi. Sekali di udara, tetap di udara. Semboyan kami, angkasawan RRI. Sekali di udara, tetap di udara. Semenjak 45 tak pernah berhenti. Pagu yang setia berjiwa Pancasila. Kita setia landas sekerjanya, Ampera tujuan utama. Penuh pengabdian pada revolusi, demi Tuhan demi Pertiwi. Sekali di udara tetap di udara.
Bonsoir à tous. Voici le commentaire sur l'autorité des parlements régionaux doit être égale à celle du parlement indonésien. Le 1er octobre 2019, le parlement régional, ou abrégé en DPD, aura 15 ans. DPD a été créé le 1er octobre 2004 lorsque 128 membres ont été inaugurés et assermentés. Depuis sa création en 2004, le DPD a joué un rôle majeur. Dans un discours prononcé lors d'une session conjointe du Parlement régional, ou DPD, du Parlement DPR et de l'Assemblée consultative du peuple MPR le 16 août, le président Joko Widodo a apprécié la performance de DPD. Il estime que le DPD a été un agent essentiel dans le maintien et la revitalisation des valeurs de la sagesse locale. Au cours des dernières années, le DPD a élaboré divers produits législatifs, comme ce projet de loi sur la proposition de l'initiative du DPD, 6 avis sur le projet de loi, 4 considérations sur les projets de loi et des résultats du contrôle de la mise en œuvre de la loi conformément aux obligations du DPD. Bien que le DPD ait créé diverses performances, ses pouvoirs ne sont toujours pas égaux à ceux du DPR. Ainsi, le DPD continue de lutter pour l'égalité avec le DPR. Le président du Parlement, Ousmane Sabtaodang, a déclaré que les membres du DPD élus pour la période 2019 à 2024 devaient continuer à se battre pour le renforcement de l'autorité du DPD. Lors de son discours à la séance d'orientation des membres élus du DPD mardi dernier, il a déclaré qu'en accord avec la Constitution, le DPD devrait être égal au DPR et doit être combattu dans les amendements à la Constitution. La lutte pour l'égalité entre DPD et DPR est très raisonnable, compte tenu l'idée de base de DPD est de créer un pont entre les intérêts régionaux et les politiques nationales, tout en donnant un rôle plus important aux régions dans la prise de décisions politiques liées directement aux régions. Une autre considération qui oblige DPD à être combattu parallèlement à DPR est la considération d'aspect de la représentation politique. Du point de vue de la représentation politique, DPD est le reflet de la diversité des tribus, des ethnies, des religions et des cultures. La représentation de DPD dépasse les frontières idéologiques car les membres de DPD ne proviennent pas de certains groupes idéologiques politiques. Au lieu de représenter tous les groupes idéologiques, les groupes d'intérêt et les groupes de la communauté. En outre, le système d'élection directe des membres de DPD, nombre de constituants et d'électeurs qui sont bien plus que le DPR fait DPD d'obtenir la légitimité la plus forte de tous les horizons de la vie. Lorsque l'on considère les aspects ci-dessus, la position et l'autorité de DPD doivent être parallèles à DPR. Voilà le commentaire. Chers auditeurs, voici l'histoire d'aujourd'hui, le 19 septembre. On commence par le 19 septembre 1945. La réunion géante sur le terrain d'Ikada a eu lieu le 19 septembre 1945 lorsque Sukarno a prononcé un bref discours devant des milliers de personnes sur le terrain d'Ikada en commémoration de la proclamation d'un mois d'indépendance. Dans divers lieux, animés par des jeunes, la communauté a organisé des réunions et des manifestations afin de déterminer son indépendance. Le rassemblement sur le terrain ICADA, ou Association d'athlétisme de Jakarta, à Jakarta, était dirigé par le comité d'action VAN. L'Assemblée générale avait pour objectif de montrer au Japon que le peuple soutenait le gouvernement de la République d'Indonésie indépendante et souveraine. Le terrain ICADA est actuellement situé au sud de la place de Monas. La suite, le président Juan Perón est renversé par l'armée argentine le 19 septembre 1955. Juan Domingo Perón était un général et homme politique argentin. Perón et sa femme, Eva, sont très connus de la population argentine. Il est une figure éminente d'Amérique latine au XXe siècle. On considère Juan Perón comme un agent de renouveau dans son pays car il détournait les fondements économiques de l'agriculture au secteur industriel. Perón est également célèbre pour donner le suffrage des femmes. Cependant, au fil du temps, il s'est transformé en dictateur et a dirigé un gouvernement autoritaire. Il a changé les institutions du pays pour pouvoir être réélu à la présidence et a destitué les juges qui s'opposaient à lui. Le 19 septembre 1955, Juan Perón a été renversé par un coup militaire. Puis on l'a exilé. L'exil pendant 18 ans n'a pas diminué son influence sur le peuple. En 1973, Perón a été réélu à la présidence de l'Argentine pour la troisième fois. Le 19 septembre 1983, Saint Kitts et Nevis est indépendant de la Grande-Bretagne. Saint Kitts et Nevis est une fédération des deux lieux situés dans les îles Leeward, dans les Caraïbes. L'île de Saint Kitts était une colonie de la Grande-Bretagne depuis 1624 et de l'île de Nevis depuis 1628. Le 19 septembre 1983, Saint Kitts et Nevis est devenu un pays indépendant. Ce pays est le plus petit pays du continent américain, à la fois en termes de superficie et de population. La capitale et le siège du gouvernement fédéral sont situés sur l'île de Saint Kitts. La petite île de Nevis se trouve à environ 3 km au sud-est de Saint Kitts. Voilà l'histoire d'aujourd'hui.
Ku sadari kau yang dipilih bagi diriku jalani hidup jagakan cinta walau pahit terkadang kau yang ku cinta selalu setia bersahaja saat cinta hampa tak lagi berkata dapatkah kita bertahan terus bersama menggapai harapan fajar yang akan datang bertahan selalu mencinta dan hidup ini tak selalu mudah kadang kelabu sesakkan kau namun hadirmu membuat aku percaya
C'était la chanson intitulée Saat Cinta Hampa, qui signifie Quand l'amour est vide, chantée par Agatha Suci. Soyez toujours avec nous à Voice of Indonesia, de l'Indonésie pour tout le monde, sur la fréquence de 3,3-5 kHz. Chers auditeurs, la rubrique suivante, voici Mon Indonésie. Bonsoir à tous. Mon Indonésie d'aujourd'hui, intitulée Le gouvernement a annoncé l'état d'urgence des feux de forêt à Riau. Le président indonésien Joko Widodo s'est rendu à Pekanbaru, Riau, et dirigé la réunion limitée de contrôle des incendies des forêts et des terres. Au cours de la réunion, Jokowi a passé en revue la réunion limitée tenue au palais présidentiel à Jakarta en juillet. Il a souligné à nouveau la question de la prévention des incendies des forêts et des terres. Le président a souligné que le gouvernement régional et le gouvernement central disposent des outils nécessaires pour prévenir au maximum les incendies de forêts et de terres. En cas de prévention, le gouvernement ou l'organisme central devrait être pleinement soutenu par le gouvernement régional. À cette occasion, le président Jokowi a déclaré l'état d'urgence de la fumée provenant de feux de forêt dans la province de Riau. Il a ordonné des mesures préventives afin de ne pas se répandre à d'autres endroits, à la fois sur la tourbe, dans la forêt ou dans les zones résidentielles. La réunion limitée a été assistée par, entre autres, le ministre coordinateur chargé de la politique, du droit et de la sécurité Wiranto, la ministre de l'Environnement et des Forêts, Siti Nurbaya, le chef de la police nationale, le général Tito Karnavian, le commandant de la TNI, le maréchal Hadi Cahyanto, le responsable de l'Agence nationale de gestion des catastrophes, Doni Monardo, et le ministre de la Santé, Nila F. Mulo. Le président Joko Widodo a déclaré que tous les efforts ont été faits. La lutte contre l'incendie a été effectuée. 5600 soldats de TNI sont arrivés. Comme l'a déclaré le président Jokowi, à la base aérienne de Rusmin Nurjadin dans la ville de Pekanbaru mercredi dernier. Le gouvernement continue de lancer des bombes à eau sur les lieux des incendies de forêt et de terre en utilisant 52 avions. Mercredi, la pluie artificielle a été créée autour du lieu de l'incendie à Indargiri Ilir. Il a également plu. Il a appelé toutes les parties à ne pas brûler les tourbières ou les forêts, ce qui pourrait provoquer les incendies. Jokowi a également ordonné des mesures décisives pour les autres incendies, à la fois des entreprises ou individus. Il a affirmé que des efforts juridiques ont été faits. Les individus et les entreprises ont reçu des mesures décisives. Le président Joko Widodo soupçonne que les incendies de forêt sont faits de manière organisée. Il a déclaré que le gouvernement, par la police nationale, engagera des poursuites judiciaires contre les autres d'infractions ayant provoqué des incendies de terrain. Il espère également que chaque partie s'engage à prévenir les incendies de forêt et de terre afin que les incendies de forêt et de terre ne se reproduisent plus. C'était Mon Indonésie.
Tolong jauhkan nafsuku dari pesona awalmu. Aku terjangkit dan sakit, terjebak di ruang sempit. bekasmu. Terlihatku palsu tanpa rasamu menjamahku, tanpa ragamu di sampingku. Bukanlah wujudmu ranjang ternyaman bagiku. Henti bergumam hati, cabutlah biar tak membiku indraku. Susah payahku melepasmu, terlihatku palsu tanpa rasamu menjamahku, tanpa ragamu di sampingku, tanpa eratmu menggenggamku, tanpa arahmu lagi.
Jakarta, voici la voix de l'Indonésie. La diffusion en français.
C'était la deuxième chanson intitulée Kusut, chantée par 420. Soyez toujours avec nous à Voice of Indonesia, de l'Indonésie à tout le monde, sous la fréquence de 3,3-5 kHz. Vous pouvez écouter notre émission sur le site de www.voinews.id. Maintenant, nous allons vous présenter le magazine culturel sur le tourisme et la sagesse locale du peuple indonésien. Bugis, l'une des tribus dans la province de Sulawesi Sud, a une variété de cuisine délicieuse, en particulier celle à base de banane. Tant de culinaire celle à base de banane, car aux régions de Sulawesi Sud, les bananiers poussent bien. En outre, son prix est bon marché, dont la banane est transformée en différents types de délicieux gâteaux, entre autres le barongko, Sangkolo bandeng et les glaces palubutu. La couleur de barongko est blanc jaunâtre, de forme triangulaire et traditionnellement emballé avec des feuilles de bananier. Le goût est doux, fait beaucoup de gens aiment le gâteau typique de Bugis, y compris le troisième président de la République d'Indonésie, B.J. Habibie. L'ingrédient principal du gâteau Baronko est la banane. Généralement, la banane étant utilisée est le type de banane que la communauté bugis appelait utilopo, ce qui signifie grosse banane. Cette grosse banane est ensuite écrasée, puis mélangée avec le sucre, les œufs, le lait de coco épais, la vanille, le sel et les autres. Après cela, il est enveloppé de feuilles de bananier, puis cuit à la vapeur. Pour la société bugis, le gâteau Baronko a une grande valeur philosophique. Ils pensent que le Baronko à la banane n'est pas seulement fait avec des mains habiles, mais aussi avec le cœur. La plupart des bugis s'appelaient Baronko comme un gâteau donné de thé. L'ingrédient principal est fabriqué à partir des bananes, puis remballé avec des feuilles de bananier. Il représente l'honnêteté. Le sens est que cela doit être identique à ce qui est vu de l'extérieur avec ce qui est à l'intérieur. Autrefois, ce gâteau est un dessert luxe qui ne sert qu'au roi et aux nobles. En outre, ce gâteau est présenté dans certains moments, comme le mariage, les cérémonies traditionnelles et d'autres événements. Baronko est généralement consommé comme la nourriture iftar. Maintenant, le gâteau Baronko peut être goûté par n'importe qui et n'importe où. On peut facilement acheter ce gâteau dans la ville de Makassar, dans le sud de Sulawesi, en particulier le long de la route de Lasindra. Le prix est assez bon marché, environ 3000 roupias à 5000 roupias. Chers auditeurs, c'était le magazine culturel sur le gâteau Baronko de Bugis.
Rasakan cinta sejak pertama ku jumpa dirimu, ku berikan tanda, namun mengapa kau tetap berlalu tak pernah melihatku. Oh, andai saja kau mengerti apa yang ku rasakan, kau tahu betapa ku mengharapkan kau jadi kekasihku. Oh Tuhan, tolong aku, tunjukkan cara untuk memiliki dirinya. Aku ingin hatinya jadi milikku. yang ku rasakan.
Ku mengharapkan kau jadi kekasihku.
Tuhan kan tolong aku,
Tuhan
tunjukkan cara untuk memiliki dirimu. Aku ingin hatimu jadi milikku.
Chers auditeurs, c'était la troisième chanson intitulée « Jadi Milikku » ou en français « Dans le mien » chantée par Marcel et Ralinsha. Pour la rubrique suivante, voici l'Indonésie en couleur, la rubrique qui vous fournit des informations sur les événements intéressants en Indonésie. Voici l'Indonésie en couleur. Dans cette édition, je vous présente des informations sur le Festival culinaire de Jakarta 2019. Chers auditeurs, le Festival culinaire international, le Festival culinaire de Jakarta, ou Jakarta Culinary Festival, ou abrégé en JCF, se déroulera encore cette année à Senayan City, Jakarta du Sud, du 3 au 6 octobre 2019. Ismaya Life collabore avec GoFood en tant qu'organisateur du festival dont le thème est In Bloom ou en français en fleur, ce qui signifie célébrer les derniers alimentaires préférés en Indonésie, tout en soulignant les tendances et les mouvements culinaires qui ont une grande influence sur le marché culinaire indonésien. À partir de ce thème, JCF veut combiner les meilleures techniques de traitement des aliments du monde à explorer pour le développement de l'industrie culinaire indonésienne. Chers auditeurs, plus de 49 vedettes culinaires internationales et indonésiennes de différents milieux, tels que chefs, mixologues, baristas et experts en gastronomie et en boissons, seront présentées à JCF 2019. Elles animeront diverses activités de JCF 2019, comme des démonstrations culinaires, démonstrations de café, cours de cuisine pour enfants, talk show, démonstrations de pâtisserie, masterclass et dégustation de vin. Lors de cet événement, de nombreux chefs nationaux et internationaux réputés ont démontré leurs compétences en cuisine et partagé leurs expériences dans le monde culinaire. L'un d'entre eux est le roi de glace, également finaliste du maître cuisinier ou masterchef australien 2017, Ben Angerman. De plus, il y a aussi le chef Elke Plasmeyer de Locavor, un restaurant indonésien qui est inscrit sur la liste de 50 restaurants fest en Asie 2019 et un jury du Masterchef Thaïlande. Jakarta Culinary Festival, ou abrégé en JCF, par ses quatre piliers, à savoir goûter, boire, déguster en verre, apprendre et s'amuser, emmènera les foodies ou les gourmets, le terme pour les visiteurs de JCF, dans un voyage culinaire avec des dizaines de locataires renommés d'aliments et de boissons, ainsi que diverses activités. Le JCF 2019 aura lieu dans deux grandes tentes, La Tente de Spoon, située en face du lobby nord de Senayan City, et la Tente Fort, située en face du hall sud de Senayan City. À la Tente de Spoon, les zones de restaurants et le festival GoFood seront les principaux restaurants de Jakarta, accueillant jusqu'à 20 marchands GoFood préférés. Tandis que dans la Tente Fort, vous trouverez un jardin de dessert et une salle de café. Ce sera également une maison pour le marché, où les vendeurs de nourriture et d'équipements de cuisine se ressemblent. L'entrée dans la zone JJF 2019 est gratuite. Chers auditeurs, c'est tout l'Indonésie en couleur sur le Festival culinaire de Jakarta 2019. Chers auditeurs, vous venez d'écouter la chanson de Abdul and the Coffee Theory, dont le titre est Moving On, ou en français, Passer à autre chose. Nous continuons notre programme avec les informations musicales.
Bonsoir à tous, merci à vous d'écouter La Voix d'Indonésie à Jakarta. L'information musicale cette fois a discuté d'une chanson de Rafika Duri. La chanteuse qui s'appelle familièrement Fika a commencé à être connue du public dans les années 1970. Son nom a plus popularisé depuis qu'elle a chanté des chansons créées par Arianto, à savoir Pour toi seulement et Poignardé d'épines. En plus de faire connaître son nom auprès de la communauté, la chanson intitulée Pour toi seulement lui a également valu de remporter le prix de Gayagem au Festival international de la chanson 1978. Cette chanson raconte un être humain amoureux, si bien que chaque fois le visage d'un être cher est toujours imaginé. Rafika Duri est née le 20 janvier 1960 à Bangka, a commencé à chanter depuis qu'elle était enfant. En 1971, à l'âge de 11 ans, Rafika a gagné le premier prix de musique pop à Bangka. Après cela, elle a déménagé à Jakarta. Après avoir été convaincue de son aptitude à chanter, Fika a pris part au concours Bintang Radio dan Televisi en 1976. Elle a réussi à gagner le champion. Bon, cerita, voici donc Rafika Duri avec sa chanson intitulée Pour toi seulement. Bonne écoute et à bientôt.
Thank you. Voice of Indonesia. Voice of Indonesia.
Chers auditeurs, c'était l'émission quotidienne en français pour ce soir. Merci de votre fidélité. Restez toujours avec nous à Voice of Indonesia, de l'Indonésie à tout le monde, sur la fréquence de 3325 kHz et sur le site web de www.voynews.id. Au revoir.